sol et en plein cœur tous ceux qui sont dans le malheur. C'est Jésus qui revient. Une chanson pour sécher la pluie qui coule sur les joues des meurtris. C'est Jésus. Ouvre-lui la porte car il veut t'emporter avec lui dans l'éternité. Un espoir nouveau de délivrance pour ceux qui sont dans la souffrance. C'est Jésus qui revient. Un cri de joie lancé vers le ciel pour rendre gloire à l'éternité. Il veut t'apporter son amour sincère et sa paix. Ouvre-lui la porte car il veut t'emporter avec lui dans l'éternité. Car il veut t'emporter avec lui dans l'éternité.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Oui, je sais. Gloire à Dieu, c'est bien. Eh bien, ce matin, on va continuer. Nous allons étudier ce que Jésus... Vendredi, je vous ai parlé de trois choses. Mais donc de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et je pensais couvrir les trois choses, mais non. Nous allons prendre que l'aumône aujourd'hui. On va parler de cela ce matin. Donc je répète encore une fois, je prends les textes tels qu'ils viennent dans les Écritures, au sujet, donc dans le sermon sur la montagne, et je prêche à la suite. Je ne fais pas exprès de dire les choses en les choisissant afin de faire quelque chose, de dire quelque chose de particulier qui me passe par la tête. Je prends donc ces textes tels qu'ils viennent à la suite. Donc on va lire Matthieu chapitre 6 verset 2-4. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas de la trompette devant toi comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen. Je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alors là, bon, c'est une nouvelle version, vous pouvez vous asseoir. C'est une nouvelle version où ils disent acte de compassion parce que le mot aumône, c'est plus tellement à la mode. C'est devenu un mot tellement religieux, n'est-ce pas? Tellement religieux. Mais c'est un mot français. Et le mot français, eh ben, pour connaître la signification, il faut aller voir dans un dictionnaire et apprendre ce que ça signifie. Et là, quand on voit le texte, il y a deux sortes d'aumônes. Quand, au temps de Jésus, c'était comme ça. Donc, il dit quand tu fais un acte de compassion, quand tu fais l'aumône dans la synagogue ou quand tu l'as fait dans la rue. Donc, il y a deux. Hein. Et de nos jours, ça n'a pas changé. Il y a l'aumône qu'on donne à ceux qui sont au service de Dieu dans l'église. Et puis, il y a l'aumône qu'on donne dans la rue, c'est-à-dire aux gens pauvres qu'on connaît et qu'on veut aider personnellement. Voilà. Le problème est le suivant. Pourquoi est-ce qu'on appelle aumône ce qu'on donne à ceux qui sont dans le ministère, dans l'Église? Parce que le mot aumône dans le dictionnaire, ça veut dire don fait à un pauvre. Les pasteurs ne sont pas pauvres. Enfin, il y en a, j'en connais. Hein. J'en connais en Afrique qui gagnent 50 francs français par mois. Pas 50 euros, hein, l'équivalent de 50 francs français par mois. Et puis, bon, ça ne les empêche pas d'avoir 5-6 gamins. Hein. Ben voilà, quoi, c'est comme ça, hein, Franck, tu les connais, tu sais bien. Alors bon, il y en a qui sont pauvres, mais bon, ce n'est pas la grande majorité. L'aumône, c'est ce qu'on donne aux pauvres, d'après le dictionnaire. Alors, je crois qu'il nous faut un peu de connaissance biblique pour comprendre pourquoi Jésus parle d'aumône. Un jour, il y a un homme riche qui s'est présenté devant Jésus et il lui dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors, Jésus lui parle, on trouve tout ça dans Luc 18, par là autour, et il lui répond, au bout d'un moment, « Il te manque une chose. » Au bout de la conversation, il lui dit « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » On trouve ça dans Luc 18, 22. Alors, Jésus dit « Il te manque une chose. » Et puis, en fait, il en parle de trois. Vends tout, distribue l'argent de tes ventes aux pauvres, et puis ensuite, suis-moi. Ça fait trois choses en une, puisque Jésus dit seulement qu'une chose, qu'ils lui ont dit trois. Ça veut dire que c'est trois, ça en fait une. Il y en a qui vont dire que c'est la Trinité. Juste avant ça, Jésus avait dit, quelques chapitres avant, chapitre 14, verset 33, « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Bon, alors, renoncer, c'est numéro 1. Vendre, c'est numéro 2. Et qu'est-ce que tous ceux qui ont vendu, qui ont renoncé, qui ont vendu au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent qui leur était revenu des ventes? Eh bien, après avoir vendu ce qu'ils possédaient, est-ce qu'ils sont allés le donner aux pauvres dans la rue? Non. Ils l'ont donné aux serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas fait ce que Luc 22 dit alors. Mais s'ils ont fait ce que Luc 22 dit, ils ont déposé l'argent de leur vente aux pieds des apôtres. Actes 4, 35. Alors, les apôtres étaient-ils pauvres? Ben oui. Ils l'étaient selon Dieu. Parce que il faut, notre justice, il faut la regarder avec les yeux de Dieu. Notre pureté, il faut la regarder avec les yeux de Dieu. Notre pauvreté, il faut la regarder avec les yeux de Dieu. Notre richesse, il faut la regarder avec les yeux de Dieu. Notre santé même, il faut la regarder avec nos yeux de Dieu, avec les yeux de Dieu. On ne regarde pas comme un simple humain. On regarde maintenant avec le regard de la foi, avec comme Dieu voit les choses. Et selon Dieu, un apôtre, un serviteur de Dieu, un homme qui prêche l'évangile, c'est un pauvre. Alors je vous explique, parce que quand même, ça demande une explication. La Bible dit que rien n'était personnellement à eux. Ils mettaient tout en commun. Tous, Actes chapitre 4, verset 32, tous mettaient en commun. Donc, ils avaient tous de quoi faire. Ça allait. Et chacun... Bon. Alors, c'est rigolo parce que des fois, quand on parle de notre vie communautaire, il y a des gens qui disent « Ah bon, mais vous ne travaillez pas ?» Alors, ils s'imaginent que parce qu'on a mis en commun, on ne travaille pas et qu'on reste toute la journée, les mains au ciel, à genoux, dans la position du lotus, ou je ne sais pas quoi, puis qu'on prie, ou je ne sais pas, moi je ne sais pas ce qu'ils imaginent, des trucs vraiment insensés. Non, chacun avait tout donné, mais après, chacun allait travailler, puis voilà, puis le soir on rentrait, puis la Bible dit, ils prenaient leur repas, puis voilà, c'était bien. Ils mettaient en commun. Et en tant que ministres du Seigneur, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, eux, ils ne travaillaient pas dans le monde, c'est-à-dire ils n'avaient pas un patron, ils n'avaient pas une entreprise, ils n'avaient pas un truc. Ils travaillaient uniquement, ce que la Bible nous dit, à la prière et au service de la parole. C'est ce qu'on voit dans la Bible, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas un travail rémunéré par le système du monde, mais un travail rémunéré par le système de l'Église. En cela, ils étaient, par rapport au monde, pauvres, puisque dépourvus de revenus. Alors, ils étaient, aux yeux de Dieu et des croyants, des pauvres, parce qu'ils ne comptaient que sur Dieu, et qui est aux cieux, et sur Dieu qui est dans les frères et sœurs, pour avoir de quoi vivre décemment. Voilà un pauvre. Un pauvre, c'est une personne qui n'a pas de revenus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai bien expliqué? Ou est-ce qu'il faut que je recommence? Non, je pense que c'est clair. C'est clair. Donc voilà pourquoi Jésus parle de deux aux aumônes, celle qu'on donne à la synagogue. Le mot synagogue, ça signifie assemblée. Donc, la première aumône, celle qu'on donne à l'assemblée, à l'église. Hein? Et puis, la deuxième aumône, c'est celle qu'on donne dans la rue, c'est-à-dire à ceux qu'on rencontre, et puis qui a des besoins, un pauvre qu'on rencontre, qui n'est pas forcément un chrétien, et qui est dans le besoin, et on lui donne. Voilà, c'est deux choses. Jésus dit, quand tu fais l'aumône, dans la synagogue ou dans la rue, c'est bien pour préciser la chose. Vous savez, Jésus ne parle pas au hasard. Quand il parle, il faut bien chercher pourquoi il dit les choses. Et ça va avec tout le reste des Écritures. Ça ne contredit pas, ça va avec. Je pense que vous avez compris ce que Jésus dit. Alors, Dieu est un Dieu miséricordieux. Et Jésus, dans son sermon, tout au long de son sermon, il vient de dire que Dieu est bon pour les ingrats et pour les égoïstes. On trouve ça dans Matthieu 5, 45, 48, on trouve ça aussi dans Luc 3, 56, je ne sais plus quoi, enfin j'ai noté des tas de passages, enfin, vous connaissez le passage, que Dieu est bon avec les ingrats, avec les injustes, avec les égoïstes, il fait lever le soleil, il fait tomber la pluie sur tout le monde, bon voilà. Alors il dit que nous aussi également, on doit être bon et généreux envers les ingrats, envers les égoïstes, et qu'on ne doit pas seulement donner à l'église, mais on doit aussi donner dans la rue à des gens qui se moquent de vous, qui n'en ont rien à faire de votre histoire de Jésus, et qui, voilà, parce qu'ils sont pauvres, on doit les aider, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Donc nous avons à imiter Dieu en bonté, en miséricorde, mais la générosité n'est pas suffisante. Ça, c'est ce que Jésus veut faire comprendre. Parce que les pharisiens étaient très généreux, mais la générosité n'est pas suffisante. Tout au long de son sermon, Jésus veut que nos motivations, on s'en aperçoit, tout au long de son sermon, et que les pensées de nos cœurs soient justes selon Dieu. On doit voir selon Dieu. On ne doit pas voir selon nos idées humaines, terrestres, démocratiques même. Quoique c'est la meilleure des choses qui puisse exister comme régime sur la terre, mais nous qui sommes chrétiens, c'est plutôt une théocratie, et on doit voir en tant que théocrate, comme Dieu voit. Alors, vous vous souvenez, par exemple, ce qu'il dit au sujet de l'adultère. Il suffit de regarder avec convoitise pour l'avoir commis. Ça, ben voilà, c'est comme ça que Dieu voit la chose. Bon. Alors, au sujet de la générosité, dans l'assemblée des élus, dans l'église, ou dans la rue, eh bien, c'est aussi notre pensée qui est importante. Ce n'est pas seulement le geste, ce n'est pas seulement la quantité d'argent qu'on donne, c'est la pensée que nous avons qui compte aux yeux de Dieu. C'est ce qui habite notre pensée quand on donne, c'est ça que Dieu regarde. Alors il y a trois possibilités de penser. Soit on cherche la louange des gens, on fait tout pour se faire remarquer, soit on donne en gardant l'anonymat, mais à l'intérieur on se félicite et on se... Je suis bien. Voilà, mais oui, mais ça, oui. Et puis, troisièmement, on recherche uniquement l'approbation de Dieu. Voilà, il y a les trois possibilités. Les pharisiens, eux, ils adoraient être félicités par les gens. Et Jésus leur a dit, vous tenez votre gloire des autres. Et vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. Jean 5, 44. Ils avaient faim et soif d'éloges. Ils adoraient ça. Alors, en quelque sorte, ils pervertissaient leur générosité. C'était généreux, mais leur générosité, elle était pervertie à cause de ça. Et Jésus, il ne se prive pas même de les ridiculiser. C'est pas, on pourrait dire que ce n'est pas gentil, mais si, si, si. Des fois, quand on prêche par le ridicule, ça fait réagir un petit peu. Vous faites sonner de la trompette pour ouvrir la marche devant vous, pour attirer l'attention chaque fois que vous donnez à la synagogue ou dans la rue. Est-ce que vraiment on sonnait de la trompette dans la rue quand les pharisiens arrivaient? Il y en a qui prétendent que oui, et ils disent, mais c'était par amour pour dire aux pauvres, voilà, les pharisiens arrivent pour vous distribuer de l'argent, venez vite. Bon, c'était il y a 2000 ans. Bon, je n'ai pas vu ça dans Flavius Joseph, mais il faut que je dise un peu plus, peut-être je vais trouver. Mais enfin, est-ce qu'ils faisaient... Moi, je pense plutôt que Jésus les caricaturait un peu, non? Moi, je pense que c'était ça. À la limite, on s'en fiche. Mais bon, ce qui est important, c'est que c'était des hypocrites. C'est ça que Jésus veut faire voir. C'est-à-dire que c'était des acteurs. Maintenant, c'est pas mal d'être acteur. Hein? On en a parmi nous des acteurs de professionnels. Donc, on va pas commencer à dire du mal des acteurs. Mais ces pharisiens-là, ils jouaient un rôle devant un public, n'est-ce pas? Ils portaient un masque de générosité. Bon, au théâtre, ça choque personne. On va au théâtre, on sait bien que quand on va voir
une pièce de théâtre, celui qui, Aragon, c'est pas Aragon. C'est Jean Dupont, là, c'est l'acteur Jean Dupont qui joue Aragon. On n'est pas dupes là-dessus, vous êtes d'accord? Tout le monde le sait, c'est une convention. Mais là, c'était pour tromper les gens. C'était pour tromper les gens. Un acteur, il fait semblant, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème. Et il n'est pas vraiment Albin. Hein, c'est Michel Serrault. Ou c'est Jean... Pas Jean Poiret. Oui, Jean Poiret. Et puis, c'est pas Albin, c'est Michel Serrault. Hein, encore, Daniel Machin, c'est pas Harry Potter. Il joue un rôle. Hein, dans la vie, il n'a pas de baguette magique, le monsieur. C'est un acteur, c'est un métier. Ce sont des acteurs. Mais là, c'était des hommes religieux qui s'emparaient de certaines pratiques authentiques, la générosité, et ils en détournaient le sens. Leur pratique, ce n'était pas du semblant, c'était du faux semblant. Pour tromper. Alors, bon, on ne va pas se moquer trop longtemps de ces pharisiens, ces religieux juifs, parce que dans notre 21e siècle, il y a de quoi aussi parler au sujet du pharisianisme chrétien. Je ne vais pas vous faire un dessin, ce serait trop long. Ce qui me semble instructif pour nous dans ces paroles que Jésus nous donne, c'est qu'il insiste sur un fait: tu cherches la gloire des gens, eh bien, tu as ta récompense. Voilà, tu l'as. Ça veut dire tu n'en auras pas d'autre. Tu n'en auras pas d'autre. Alors, comment un disciple de Jésus doit-il agir? Comment doit-il faire? Quand tu fais l'aumône, il dit que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. La main droite, en général, c'est la main active, c'est celle qui est censée remettre le don. Bon, je sais qu'il y a des gauchers, Jésus n'est pas anti-gaucher, mais dans la généralité, en général, bon, voilà, on donne avec la main droite. Alors, que l'autre main, c'est-à-dire la gauche, ignore ce que fait la droite. Que ta main gauche ne cherche même pas à s'informer de ce que fait la droite. Non seulement les autres ne doivent pas savoir, mais même celui qui donne ne doit pas savoir. Alors c'est une phrase choc. Elle a un but, c'est de nous faire comprendre, mes frères et sœurs, que le souvenir de notre générosité, qu'on se repasse dans la tête, ça nous expose à l'orgueil. C'est ça, mes frères et sœurs. La perversion, c'est détourner le don. C'est celui qui reçoit qui doit être... qui reçoit un bienfait, pas celui qui donne. Jésus est bon et il nous pousse à tenir notre générosité secrète dans un but, afin que notre vanité ne trouve pas dans nos offrandes encore une occasion de nous faire pécher. Alors, la grande leçon que Jésus enseigne ici, c'est la mortification. Mortification. C'est-à-dire de mortifier, c'est-à-dire de mettre à mort notre vanité. Notre vanité. L'égocentrisme, c'est vraiment le truc de l'homme ancien, du vieil homme, de la vieille femme que nous étions avant de connaître Jésus. Mais l'homme né de nouveau, la femme née de nouveau, mène une vie généreuse, mais dépourvue de calcul. Alors, est-ce qu'on doit pratiquer à la lettre ce que Jésus vient de dire là? Non, bien sûr. On dira, bon, ben non. Quand ta main droite donne, tu sais forcément ce que ta main gauche sait forcément. Il ne faut pas arrêter quand même. C'est pour faire comprendre quelque chose. Un disciple de Jésus doit tenir des comptes. Jésus lui-même, il avait un comptable. Un jour, il a envoyé, c'était Judas d'ailleurs le comptable, combien y a-t-il dans la caisse? Ils étaient au courant, il y a un comptable. Il donnait aux pauvres, il savait combien ils donnaient, il savait combien ils allaient pouvoir donner, c'est-à-dire qu'ils faisaient des prévisions budgétaires, ils savaient. Ils savaient que s'ils allaient dans tel et tel endroit, ils allaient recevoir et qu'ils allaient donc pouvoir donner. Ils faisaient des projets budgétaires. Et puis maintenant, de nos jours, on ne peut pas remplir un chèque seulement avec la main droite, il faut aussi la main gauche pour tenir le volet et tout machin, non? Ce que Jésus veut, c'est que nous donnions sans savourer notre libéralité généreuse, consciencieuse, régulière, en disant « Ah, est-ce que je suis bien ?» Bon, il y a des trucs que je suis un peu pourri, mais là, alors, ça dépasse tout. Mais qu'est-ce que je suis bien? Il n'y en a pas beaucoup qui font comme moi. Vous voyez?
La libéralité, selon Jésus, c'est un don de soi. C'est un oubli de soi. Ce n'est pas un sujet de se glorifier soi-même. C'est pas même en secret. Alors que nous donnons à l'église ou dans la rue, ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Dieu doit être notre seul témoin. C'est pourquoi il dit, le Père qui voit dans le secret te récompensera. La récompense. Alors il y a des gens très pudiques qui n'aiment pas ça du tout non plus. Oh là là, ils ne veulent pas donner en s'attendant à être récompensés par Dieu. Ah non. Moi, je pensais comme ça avant d'être né de nouveau, jusqu'à ce que finalement je comprenne le message de Jésus. C'est très louable de dire, oh non, moi je donne, mais ce n'est pas pour recevoir un retour, non. Mais ils trouvent que la promesse faite par Jésus lui-même, ils osent la critiquer. La promesse d'une récompense, ils trouvent ça vraiment incohérent. Ah non, faut pas. Est-ce que ce n'est pas possible de simplement donner pour donner? Il faut vraiment, on doit s'attendre à une récompense. Oh, c'est mesquin. Une recherche d'approbation de Dieu, mais est-ce que ce n'est pas déjà un premier pas dans la corruption? Ce que Jésus dit là, c'est infiniment plus fin que ces raisonnements qui sont louables, très louables, mais c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que Jésus dit que c'est normal qu'on soit récompensé. Si Jésus dit que c'est normal qu'on soit récompensé, alors ceux qui disent que ce n'est pas normal d'être récompensé, c'est ceux qui ne sont pas normaux, pardon Seigneur. Il y a quelque chose de faux chez eux, ils n'ont pas compris, mais c'est louable, ils sont honnêtes, je suis sûr. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Écoutons bien ce que Jésus dit. Frères et sœurs, il faut que nous tenions compte de la promesse de la récompense que Jésus fait. On va réfléchir un petit peu à ça. Qu'est-ce que vous diriez d'un papa qui ne récompenserait jamais ses enfants? Je ne parle pas du papa qui dit « Ah bon, on t'a lavé la voiture, super, voilà 3 euros. » Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un père qui ne ferait jamais savoir à son fils qu'il est content et qu'il est fier de lui. Vous voyez? Et puis, si le don est secret, comme Dieu veut qu'on le fasse, s'il est fait dans le secret, le don, la récompense qui vient de Dieu ne va pas forcément être publique. Elle peut être faite dans l'intimité, un contentement, une récompense faite dans le secret aussi. Pourquoi est-ce que Dieu irait sonner de la trompette? Les récompenses de Dieu n'ont pas forcément un lien de cause à effet avec ce qu'on a fait ici-bas. Je pense que vous avez remarqué ça. Écoutez bien ça. C'est un exemple. Un homme, simple ouvrier, rencontre une femme riche. Pourquoi se marie-t-il avec elle? Pourquoi? Par intérêt ou par amour? Ah, ça c'est la grande question. Je regardais l'autre soir un film de Colombo, c'était la grande question de la dame. Est-ce qu'il m'a épousé pour mon argent ou est-ce qu'il m'a épousé pour moi? Mais je vais vous dire, s'il se marie par amour vraiment, il y trouvera tout de même un intérêt, non? Est-ce qu'il va y trouver un intérêt ou pas? Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que c'est de l'amour. Ça n'empêche pas qu'il l'aime, qu'il l'a épousé par amour. C'est notre idée de l'intérêt qui est faussée à cause du péché, à cause de la vie de péché qu'on a vécu ou qu'on voit vivre autour de nous. Alors on met ça dans un casier. Non, il faut regarder comme Jésus regarde. C'est aussi notre idée de la récompense qui est faussée par l'idée qu'on s'en fait à cause du péché. Très souvent, on n'aime pas tellement les récompenses parce qu'on n'en a pas eu. Puis, il y a le sale gamin, premier de la classe, toujours avec sa oreille bien droite, là, comme ça, qui était récompensé sur le podium avec tous les applaudissements du lycée ou du collège, puis que nous, on n'avait pas, puis que pourtant, on avait bossé et tout. Alors, on a des idées au sujet de la récompense. Ouais, mais. On peut avoir toutes sortes d'idées au sujet des récompenses. Mais si Dieu promet une récompense, c'est que c'est parfaitement juste, mes frères et sœurs. Les récompenses que Dieu donne à ses vrais disciples ne sont pas une sorte de rajout artificiel sur les actes que nous avons faits. Pas du tout. Les récompenses faites par Dieu à ses vrais disciples, c'est la perfection même de l'accomplissement des actes d'amour que nous avons faits sur commande. Mais c'est la perfection. Si ça vient de Dieu, c'est que c'est parfait. Si c'est promis par Dieu, c'est que c'est parfait. Et puis ceux qui pensent le contraire, ben, ils peuvent continuer. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais il faut que ces choses soient enseignées. Il faut que ces choses soient dites afin qu'il y ait la paix dans le cœur de celui qui donne. Et puis aussi, cet espoir de la récompense, ça fait toujours plaisir. Non, ça ne vous fait pas plaisir, vous. Moi, j'aime bien. Quand un disciple donne de quoi nourrir un homme pendant un mois, un pauvre pendant un mois, sa récompense, ça peut être simplement qu'il il a soulagé celui qui était dans le besoin et il l'a soulagé. Ça lui fait plaisir d'avoir soulagé un besoin d'une personne qui était dans le besoin. Écoutez bien, quand les affamés sont rassasiés, c'est bon. Quand ceux qui sont nus sont vêtus, c'est bon. Quand les malades sont guéris, c'est bon. Quand les opprimés sont libérés, c'est très bon. Quand les perdus sont sauvés, c'est magnifiquement bon. Celui qui a de l'amour pour les autres, pour ceux de la rue et pour ceux de l'église, eh bien, ceux qui ont cette sorte d'amour-là, ils éprouvent une grande joie et ils ne désirent pas une autre récompense. En fait, ils sont comblés. Mes frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, notre libéralité nous donne à découvrir que Jésus, une fois de plus, a toujours raison. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais encore faut-il que ça soit bien calé, bien mis à sa bonne place. Toutes ces choses, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous aider à bien saisir cela. À bien saisir cela afin que notre gestion soit correcte et que nous sachions approuver de toi. Merci Seigneur mon Dieu de nous permettre de pourvoir aux besoins de ceux qui sont vraiment dans le besoin, les vrais pauvres. Merci Seigneur pour les pauvres dans l'église. Merci Seigneur pour les pauvres dans la rue. Merci Seigneur de nous placer là pour pouvoir faire quelque chose avec ce que tu nous as donné. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.